chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Il est 16h39 précise. De gros dossiers aujourd'hui dans la chronique judiciaire de Maître Julien Bouliane. Le policier de Saguenay, Pierre Girard, fait face à des accusations d'abus de confiance, de vol, de fraude, d'escroquerie. C'est la première fois que j'entends parler de cette accusation. On va aller en discuter avec Maître Bouliane, qu'on rejoint via l'application FaceTime. Bonjour Julien.
Bonjour.
Escroquerie, je ne me souviens pas d'avoir discuté de telles accusations avec toi.
Ah, souvent, ça arrive. C'est dans des genres de dossiers de fraude. Là, c'est par la supercherie, le mensonge, choses comme ça. Donc, c'est d'avoir des intentions frauduleuses, commis des actions. Dans ce cas-ci, on n'a pas le détail. Hein. Et ça a eu l'effet d'une bombe, ce dossier-là, honnêtement, présentement, dans le milieu judiciaire, le milieu policier. C'est quelqu'un qui a une très longue carrière derrière lui. Reconstitutionniste, le plus haut gradé, si on veut, dans les reconstitutionnistes dans la région. Qui faisait autant les scènes de crimes d'accident que différents, mettons, exemple, pour identifier des véhicules qui pouvaient être volés, maquillés, c'est lui qui pouvait faire les expertises, etc. Donc, on le retrouvait dans quand même plusieurs dossiers. Et c'est quelqu'un qui était excessivement sympathique, et qui l'est toujours, excessivement sympathique. Là, j'ai pas à parler au passé là-dessus. Faut dire aussi qu'il y a la présomption d'innocence, mais c'est des accusations d'importance, oui, qui aurait eu lieu dans le cadre de son travail. J'ai hâte d'avoir quels sont exactement les gestes qu'on lui reproche. On parle de feuilles de temps. Est-ce que c'était parce que lorsqu'il est ce qu'on appelle un bon vieux call, là, il était payé pour avoir des calls et ça faisait des heures de travaux, des heures supplémentaires et ça faisait en sorte qu'il faisait des fausses cartes d'appel pour pouvoir justifier des déplacements. J'y vais dans l'hypothèse, mais c'est un peu ce que je peux comprendre dans l'article que j'ai lu ce matin dans le quotidien. Gros dossier, effectivement. Je le dis, là, ça a eu carrément l'effet d'une bombe dans le milieu judiciaire parce que c'est quelqu'un qui est très connu, qui est appelé à travailler dans plusieurs dossiers.
Bon, et quand j'ai lu l'article, je me suis posé la question suivante. Parce que Pierre Girard, c'est le reconstitutionniste dans l'affaire Yves Martin, dans le rang Saint-Paul, en 2015. Les accusations datent de 2016, allées jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis posé la question... Et l'avocat d'Yves Martin l'a souligné aujourd'hui dans le bulletin du midi à TVA Nouvelles, à savoir, est-ce qu'on pouvait faire confiance à M. Girard dans les procès où il a témoigné? Est-ce qu'on va devoir refaire ces procès-là?
Écoute, as-tu vu sur Netflix, il y a un reportage sur deux chimistes à Boston, aux États-Unis, non, qui avaient falsifié des rapports d'analyse. Vous avez pas vu ça?
Non.
Je pense que c'est comment créer un scandale de drogue ou quelque chose comme ça, là. Et c'est fou, ils ont été obligés de canceller, je pense, c'est 70 000 condamnations. Vous me corrigez si je me trompe, là, mais des dizaines de milliers de condamnations parce que les chimistes qui faisaient l'analyse dans les laboratoires avaient fait de faux documents, avaient fait de faux rapports d'analyse et ça avait fait en sorte que bien qu'il y ait des événements qui étaient avant, durant tout le temps où ils étaient à l'emploi, ça pouvait permettre de penser qu'ils avaient peut-être été frauduleux avant, bien que la preuve, on l'a sur une certaine période. Est-ce qu'avant ça, depuis quand commençait réellement, la question se pose. Dans le dossier d'Yves Martin, Maître Fradette avait beaucoup remis en question le travail du reconstitutionniste, ce qui avait été, évidemment, il était appuyé par les représentations du ministère public. Le juge Huot avait balayé du revers de la main les arguments de Maître Fradette. Ça avait amené une condamnation. Mais oui, effectivement, ça pourrait faire en sorte qu'en appel, il pourrait y avoir ordonnance d'un nouveau procès si on considère que le travail de M. Girard, qui a été central dans la condamnation, pourrait être remis en question. C'est exactement le même dossier. Tu revois ça, Richard, c'est très intéressant, qui fait en sorte qu'il y a un paquet de condamnations qui reposent sur son expertise qui pourraient être mises en doute.
On va maintenant parler d'Éric Duquette, qui a été déclaré coupable de 3 chefs d'accusation en novembre dernier, dont un d'agression sexuelle. Il a été rétrogradé de major à capitaine ce matin par la cour martiale de Bagotville à Saguenay. Est-ce que tu penses que l'armée a voulu en faire un exemple, parce qu'on parle beaucoup de ces dossiers d'agression sexuelle dans l'armée?
Ben, je sais pas si l'armée telle quelle, mais assurément le juge le mentionne à plusieurs reprises dans son jugement. Il vient mentionner que c'est des comportements qui sont inacceptables, que les forces armées ne tolèrent pas ce genre de comportement-là, bien qu'on était dans le bas de l'échelle. Hein. On le rappelle souvent aux gens, l'agression sexuelle passe, si on veut, de ce genre de comportement. Il avait pris une fesse à une personne sur une piste de danse dans un party de Noël. Ça demeure une agression sexuelle, comme dans le cas lorsque le juge l'a condamné. Mais on est dans le bas de l'échelle parce qu'il y a des agressions complètes là, dans lesquelles on aurait pu avoir des relations avec pénétration, etc., qui sont aussi le même chef d'accusation. Ça va jouer sur la trame factuelle, sur la gravité, mais c'est le même chef d'accusation. Donc, on était dans le bas de l'échelle des agressions sexuelles. Par contre, le juge dit qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de comportement. La défense, Maître Morissette, plaidait une absolution inconditionnelle qui lui aurait permis de garder, entre autres, son grade. Il aurait de toute façon été sur le registre des délinquants sexuels. Ça, encore une fois, le registre des délinquants, je pense que certaines accusations pourraient bénéficier. C'est les conservateurs qui ont enlevé ça. Avant, le juge avait une certaine discrétion pour vous inscrire ou non. Maintenant, c'est automatique, peu importe les circonstances. Et je pense qu'on noie le poisson dans certains cas. Est-ce qu'on veut, sur le registre des délinquants sexuels, avoir des pédophiles récidivistes et des gens qui ont pris une fesse sur une piste de danse dans un party de Noël, bien que ça demeure une agression sexuelle, je suis pas en train de banaliser, mais est-ce qu'on parle de délinquants sexuels? S'il faut que la GRC surveille tout ce beau monde, est-ce que ça fait en sorte qu'on donne moins d'attention à des personnes qui devraient en avoir, or que des gens qui ont commis des gestes isolés sans être vraiment des prédateurs sexuels se retrouvent sur le même registre? Là, c'est là où le bas blesse, parce qu'effectivement, tout le monde est là-dedans. Là. Du bas de l'échelle au haut de l'échelle, c'est le même registre. Et il a été rétrogradé. Ça peut paraître banal comme sanction de passer de major à capitaine pour le commun des mortels, mais ça a des conséquences énormes sur le traitement, c'est-à-dire sur son salaire et sur son fonds de pension. Donc, oui, monétairement parlant, c'est quelque chose qui lui fait très mal.
Ouais, et dans les facteurs aggravants, je suppose que le fait que la militaire était de grade inférieur, ça a joué. Et le fait aussi que M. Duquette reconnaît toujours pas ses gestes.
Effectivement, lorsqu'on plaide coupable dans un dossier, vous avez le droit, hein, c'est pas un facteur aggravant de faire un procès, faut le dire, mais c'est un facteur atténuant si vous plaidez coupable. Et dans ce cas-ci, c'est ton droit, il y avait la présomption d'innocence et il y avait le droit de faire un procès pour le tenter de le plaider, de le démontrer au tribunal. Le juge n'a pas cru à sa défense, l'a condamné, le dossier est en appel, donc évidemment, on n'avait pas ce facteur atténuant-là du plaidoyer de culpabilité.
2 ans de prison pour une 8e conduite avec les facultés affaibliées. On parle du dossier de Roch Lavoie. Et ce qui m'a intéressé dans ce dossier-là, Julien, c'est la gradation des sentences. Si on remonte aux années 90, tu sais, quand on vous dit que dans les années 80-90, l'alcool au volant, c'était banal. On traversait la réserve faunique de Laurentides avec une petite frette entre nos jambes. Même on se prenait une caisse de 12 avant de traverser le parc. Je regarde là, en 1991, première condamnation pour Roch Lavoie, 350 $ d'amende. That's it. Après ça, on s'en va en 1994, il est encore une fois arrêté, 700 $ d'amende. 1995, une troisième fois, 2 amendes de 500 et 300 $. En 98, 4e arrestation, là, on est passé à 3 mois de prison. C'est donc dire, Julien, que dans les années 90, la consommation d'alcool au volant, c'était vraiment banal, là.
Ben effectivement, c'était pas aussi traité aussi sévèrement qu'aujourd'hui. On n'avait pas la même conscientisation sociale. Parce qu'il faut dire que maintenant, là, parce que des fois, on en voit là, 12, 13, 14, voire 15 antécédents de faculté affaiblie. Vous verrez plus jamais ça parce que ces gens-là vont être en prison pour de très, très, très longues périodes. Le ton s'est durci. À partir de la deuxième faculté affaiblie, c'est minimum 30 jours d'incarcération. Ça, c'est si vous avez aucun autre facteur aggravant. À partir de la troisième, c'est minimum 4 mois d'incarcération. Donc, impossible de le purger ce qu'on appelle de façon discontinue, là, c'est-à-dire la prison de fin de semaine, sauf il faut que ça soit au maximum une peine de 3 mois. Donc, à partir de la troisième infraction, c'est automatiquement minimum 4 mois. Et en montant, généralement, on va doubler les peines que vous avez déjà eues. Donc, quelqu'un qui se ramasse à sa troisième qui a eu 4 mois va se ramasser ensuite aux alentours de 12 mois et ainsi de suite en montant. Donc, les peines sont de plus en plus sévères. Et au niveau aussi du code de sécurité routière, la SAQ est très, très, très sévère. À partir de la deuxième infraction, vous avez un antidémarreur à vie. Donc maintenant, effectivement, les multirécidivistes sont traités de façon très, très, très sévère, tant par les tribunaux que par le Code de sécurité routière.
Les choses ont bien changé, Maître Bouliane. Ça a été un plaisir. On vous retrouve mardi dans le show du matin.
Salut, une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée ensoleillée.
Oui, et chaude surtout. Merci, Julien.